Bonjour Denis Salas.
Bonjour.
C'est le procès de tous les superlatifs qui s'ouvre aujourd'hui au Palais de Justice de Paris, le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, hors norme par le nombre des victimes, des parties civiles et par la durée prévue, 9 mois. 9 mois, est-ce que ça n'est pas beaucoup trop ? Pour les victimes, c'est évidemment un marathon avec toutes les souffrances que ça peut engendrer.
C'est une durée qui est prévue essentiellement pour permettre de respecter le droit des accusés à des temps de repos. Il y a aussi des 4 maisons d'arrêt qui vont amener les accusés à l'audience. Ça prend beaucoup de temps. Il faut une coordination. Il y a un système de contrôle sanitaire. Donc cette durée est prévue essentiellement pour permettre une organisation favorable du procès dans une temporalité longue et permettre aussi aux professionnels, notamment aux avocats, de disposer de leurs agendas d'une manière plus satisfaisante que si le procès était ramassé sur 3 mois ou sur 4 mois, par exemple.
Comment fixe-t-on la durée d'un procès ?
C'est une compétence du président de l'audience qui fixe le planning de l'audience en concertation avec les parties, avec les avocats et avec le procureur. C'est lui qui définit le planning, qui est une sorte de colonne vertébrale de l'audience, parce que c'est ce qui va nous guider pendant tous ces mois dans les différentes étapes de l'élucidation des vérités.
Au-delà des sanctions, au-delà des peines que prononcera la justice, qu'est-ce que peut, selon vous, apporter ce procès aux victimes et à leurs proches ?
Je crois que c'est très important, à mes yeux en tout cas, un espace de parole qui leur est proposé pour exprimer le récit qui est le leur, ce qui me semble extrêmement important face à la revendication de l'attentat par les djihadistes qui seront en face d'eux. Donc leur dire que c'est pas eux qui fixent le script de l'affaire, c'est les victimes qui déterminent eux-mêmes leur propre vécu, leur manière dont ils vivent cette violence subie, et non pas cette violence en quelque sorte narrée par le djihadisme, hein, donc une sorte de retour de la réalité, et en même temps affirmer son existence en tant que personne, au sens où on dit « je » face à l'anonymat qui les frappe, à cette cible inanimée dont ils ont été désignés par les terroristes. Donc c'est un moment d'affirmation, d'un récit par les victimes qui me semble très importante, surtout pour contrer en quelque sorte le grand scénario de djihad qui leur est opposé.
Mais je le disais, c'est aussi une épreuve. Et d'ailleurs, de nombreuses victimes ou de nombreux proches de victimes ne voudront pas y aller.
C'est une épreuve considérable parce qu'on revit complètement ce moment à l'occasion de ce procès. Mais en même temps, je dirais, c'est aussi une manière de se la réapproprier, de se réinventer à cette occasion-là et de maîtriser de bout en bout le récit dont on est l'auteur.
Est-ce que les audiences de procès, de manière générale, mais de celui-là, puisque c'est de celui-là que nous parlons, peuvent faire surgir des vérités qui ne sont pas apparues pendant l'instruction ou au contraire infirmer des vérités que l'on pensait établies ?
Absolument. Absolument. C'est le but de l'audience d'assises. Vous avez une première vérité qui est établie par le dossier, élaboré par les juges d'instruction et la police. On l'a vu au procès de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, il y a une vérité du dossier qui est le point de départ de l'audience. Et ensuite, vous avez l'audience elle-même qui rebat complètement les cartes parce que cette vérité est passée au crible du débat contradictoire et d'une discussion proposée par les avocats. Et moi, ce que j'avais appelé récemment une défense de déconstruction, vous avez les avocats, voire d'autres parties, qui peuvent déconstruire une vérité qui a été préconstruite, en quelque sorte, dans le dossier. Et ça a été extrêmement efficace dans le procès de Charlie Hebdo pour plusieurs accusés qui ont échappé à la qualification de terroriste.
Puisque vous parlez du procès de Charlie Hebdo, celui qui s'ouvre aujourd'hui sera-t-il différent de celui des attentats de Charlie Hebdo ?
À mon avis, totalement différent, parce que dans ce procès-ci, nous avons toute la structure, la logistique et la structure de l'État islamique qui est derrière le commando qui a frappé la France, mais aussi la Belgique par la suite, et même avec des projets plus larges sur l'Europe tout entière. On a un scénario un peu analogue à ce qu'a été le 11 septembre pour les États-Unis. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, où grâce à l'enquête remarquable qui a été menée par les juges d'instruction, on a effectivement un panorama très large, très complet, du point de vue des initiateurs de l'attentat. attentats jusqu'aux exécutants et aux opérationnels et même aux logisticiens. On a vraiment toute la chaîne de l'action, de l'attaque de masse dont nous avons été l'objet, qui sera présentée à cette audience.
Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être la stratégie de la défense, des avocats de la défense ?
On peut supposer que ce soit une stratégie soit du silence, soit de l'évitement, c'est-à-dire ne pas être confronté à une réalité des faits eux-mêmes afin de pouvoir se maintenir dans une sorte de mensonge ou au contraire d'affabulation. On peut imaginer qu'il y ait une sorte de djihad du silence, comme on pourrait dire un djihad en prison. Donc continuer la lutte, en quelque sorte, par le silence, comme le fait par ailleurs la mafia dans les procès en Italie récemment. Donc ça peut être une hypothèse où, en opposition à cette vérité qui est proposée par le dossier et par l'audience, eh bien effectivement, les accusés, ou certains accusés, peut-être pas tous, on verra, ça sera sûrement très différencié, opposent un mépris silencieux à l'exigence de parole qui leur est demandée par la Cour.
Ce procès va se tenir dans un espace qui a été spécialement aménagé au sein du Palais de justice de Paris. Est-ce que ce choix a de l'importance ? Est-ce qu'il peut avoir une incidence sur le cours du procès ?
Ce choix, à mon avis, est décisif, parce qu'il faut absolument que face à cette guerre qui nous est déclarée, la réponse de l'État de droit se mette en ordre de marche. Et quelle meilleure réponse, en quelque sorte, que une salle d'audience construite pour l'occasion au cœur du palais de justice de Paris, de plus de 500 mètres de longueur, pouvant accueillir 1800 parties civiles. Donc une sorte de matérialisation de l'état de droit à travers cette salle d'audience exceptionnelle qui pourrait effectivement être opposée, hein, comme espace de parole et de discussion, à la violence terroriste qui nous a combattus pendant ces années 2015 et 2016.
Comme d'autres l'ont déjà été, et notamment d'ailleurs celui des attentats de janvier 2015, ce procès va être filmé. Qu'est-ce que cela peut apporter ? Est-ce que c'est nécessaire, d'une certaine manière, pour l'entretien de la mémoire ?
Absolument. Ce procès, vous savez, les procès, nous sommes finalement relativement peu à l'observer. Moi, je vais l'observer, les chroniqueurs judiciaires vont l'observer, il y aura des live tweets, mais finalement, même s'il y aura une web radio réservée aux victimes, peu de gens pourront y assister, alors qu'elle concerne notre société tout entière. Donc on peut espérer tout de même que, grâce au film du procès, il entrera dans la mémoire collective, et que ce qui entrera dans la mémoire collective, ce n'est pas l'attentat lui-même, les faits eux-mêmes, la violence qui a frappé la cité, mais précisément aussi la réponse que nous avons opposée à cette violence, et en particulier ce procès, cette audience, ces débats, dont on peut penser, comme ça a été le cas pour le procès de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, qu'il apportera des témoignages très forts qui pourront s'opposer de manière digne à la violence qui nous a frappés.
Ouais, que la force du procès supplante la terreur des attentats. C'est un sacré défi tout de même.
C'est un défi, mais il faut le relever.
Merci, Denis Salas.
Je vous en prie.
Bonne journée.